Vous voyez donc que l'homme est déclaré juste sur la base de ses actes et pas seulement de la foi. Ah ! Et là, on a un paradoxe doctrinal. Parce que Paul n'a cessé de dire que l'homme n'était pas déclaré juste par les œuvres. Il a repris ce même passage en disant « Abraham a été déclaré juste et ça lui a été compté comme justice par la foi qu'il a eue. » Par la foi qu'il a eue. Oui, c'est vrai, mais on va lire ensuite dans Hébreux ce qui s'est exactement passé dans Abraham lorsqu'il a cru. Et il nous est dit ici que par les œuvres, la foi est menée à la perfection. Qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure? Que Jésus est celui qui est l'auteur, l'origine de notre foi, et qui la mène à la perfection. Donc il faut relier ces deux versets. Ça veut dire que Jésus va t'amener à agir à un moment donné. La parole de Dieu que tu as mise dans ton cœur, en laquelle tu crois, que tu proclames, va t'amener à agir à un moment donné, et cette foi que tu as va être amenée à la perfection. Deuxième débat doctrinal, est-ce que la foi que l'on a reçue est perfectible? Est-ce qu'elle a encore besoin de maturité? Ou bien est-ce que, comme le dit Andrew Mack dans Esprit à mes corps, par exemple, la foi que nous avons reçue, c'est la foi de Dieu. Dans notre esprit, elle est parfaite. Alors, comment peut-elle être menée à la perfection? Eh bien, on va voir après ce qui s'est passé pour Abraham exactement. Mais dans ton esprit, tu as reçu la mesure de foi de Dieu. Pasteur Marie-Hélène a prêché là-dessus. Tu as reçu la foi de Dieu, tu as reçu la mesure de foi de Dieu, tu as autant de foi que tu en auras besoin, tu as la même foi que Jésus. Tu peux donc avoir les résultats qui vont avec. Le problème, c'est que nous vivons dans un corps et nous avons une âme qui ont encore besoin d'être renouvelée. Et tant que notre âme, c'est-à-dire notre pensée, nos émotions, notre capacité de raisonnement, notre culture, notre personnalité, nos croyances, ne s'alignent pas sur la parole de Dieu, eh bien, notre foi spirituelle ne va pas produire les résultats escomptés. Ou alors, ça va commencer peut-être par être un petit filet d'eau, jusqu'à ce qu'à un moment donné, le débit augmente et augmente et augmente et que, eh bien, et que cette foi ou la manifestation de cette foi soit rendue parfaite, c'est-à-dire mature, complète. Le mot « parfait », c'est le mot « téléios » en hébreu, en grec, pardon. Et le mot « téléios », ça veut dire exactement cela, « complet ». Celui qui a atteint l'objectif, rempli. D'accord ? La racine hébraïque, la racine grecque, décidément, j'y tiens. La racine grecque de « téléios », ça nous parle... C'est telos et ça nous parle, telo, pardon, fixer un point défini ou un but. La foi que nous avons reçue doit parvenir à se manifester jusqu'à la plénitude, jusqu'au but que Dieu a défini. Pour cela, elle doit être rendue parfaite. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez qu'il y a deux dimensions, on va dire, ou deux domaines? Il y a ce qui se passe dans notre esprit, ce qui s'est passé dans notre esprit à la nouvelle naissance, et il y a le quotidien. Il y a ce qui se passe dans notre âme, il y a ce qui se passe dans notre corps. Et Jacques nous dit ici, les œuvres ont leur importance. Croire, parler et agir. Et agir. Ensuite, il nous dit, Rahab la prostituée n'a-t-elle pas de la même manière été considérée comme juste sur la base de ses actes, lorsqu'elle a accueilli les messagers et les a fait partir par un autre chemin. On va lire l'histoire tout à l'heure. En effet, de même que le corps sans esprit est mort, de même la foi sans œuvre est morte. C'est très intéressant de noter que, bon, Rahab, la prostituée et sa famille, pour ceux qui connaissent l'histoire de Josué, a été sauvée de l'extermination de Jéricho. Mais ce n'est pas ce que nous dit Jacques ici. Il nous dit non seulement elle a été sauvée, mais elle a été considérée comme juste, elle a été justifiée. Cette femme a été justifiée par sa foi. Justifiée, ça veut dire quoi? En règle avec Dieu. Collée au standard divin. Dans Genèse, regardez avec moi, chapitre 22, versets 1 à 3, il nous est dit, « Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve, il lui dit, « Abraham !» Celui-ci répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. » Verset 10, puis, donc, ils y vont, ils se préparent, etc. Puis Abraham tendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Pause. Pause. Pour ceux qui ont des enfants, pour ceux qui ont une capacité d'imaginer ce que ça serait, d'imaginer ce que c'est de devoir égorger son propre enfant. Et pourtant, cet homme-là avait une telle relation avec Dieu, une telle confiance en Dieu. Dans Hébreux, il nous est dit ensuite qu'il pensait... C'est intéressant, l'Épître aux Hébreux, parce que ça éclaire des épisodes de l'Ancien Testament sous un jour nouveau que nous ne pouvons pas lire dans l'Ancien Testament. Est-ce que c'est la tradition orale qui fait que Paul... Alors, on suppose que c'est Paul, l'Épître aux Hébreux, hein, c'est lui qui a le plus de chances d'être l'auteur. Est-ce que Paul, qui était un érudit juif, inculque, je veux dire, bien qu'il écrive aux Hébreux, mais enfin, dans le canon biblique, permet maintenant à nous autres de savoir, je dirais un peu le dessous des cartes de l'Ancien Testament. Est-ce que c'est par révélation que ça, a été donné à l'auteur de l'Épître aux Hébreux ? Je ne sais pas. Mais quand vous lisez l'Épître aux Hébreux, vous voyez notamment une chose à propos de l'épreuve d'Abraham avec Isaac, c'est que Abraham était tellement convaincu que Dieu allait accomplir sa promesse que même s'il ne comprenait pas intellectuellement pourquoi Dieu lui demandait de sacrifier précisément le canal par lequel la promesse devait s'accomplir, il nous dit qu'il pensait que Dieu allait ressusciter son fils. Verset 11, « Alors l'ange de l'Éternel l'appela depuis le ciel et dit « Abraham, Abraham !» Il répondit « Me voici, l'ange dit « Ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Abraham, on le sait, a vu ensuite un bélier qui était là et il l'a sacrifié. Puis, verset 15, « L'ange de l'Éternel appela une deuxième fois Abraham depuis le ciel. » Donc il y a eu deux, ça, les détails sont importants, il y a eu deux fois où Dieu s'est adressé à Abraham dans ce même moment, avant le sacrifice, après le sacrifice, et il lui dit « Je le jure par moi-même, déclaration de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai et je multiplierai ta descendance. Elle sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareille au sable qui est au bord de la mer. De plus, ta descendance possédera les villes de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance. » Parce que tu m'as obéi. Il y aurait beaucoup à dire sur cet épisode. Ce qui est assez intéressant, c'est que la promesse de la descendance, la promesse de la bénédiction, ce n'est pas la première fois que Dieu la faisait à Abraham. En fait, la vie d'Abraham et les différents épisodes que nous connaissons se sont passés parfois à 10-15 ans d'intervalle. Mais ce passage-là, qui est celui qui est repris dans le Nouveau Testament, pour parler ben, notamment de Jésus, et du fait qu'il est la descendance dont il s'agit ici, ça se passe après la mise à l'épreuve d'Abraham, après qu'il ait accepté d'agir sur la base de la foi qui était la sienne. D'accord ? Ok. Hébreux chapitre 11. On balade un peu dans les Écritures. Hébreux chapitre 11. Il est dit au verset 1. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. La démonstration de celles qu'on ne voit pas. La ferme assurance. On en a parlé la semaine dernière. La ferme assurance. Il y a des fois où on parle la parole, par la foi, je dirais, parce qu'on a la ferme assurance que la parole produit du résultat, mais on n'a pas encore la ferme assurance de la réalité des promesses de Dieu dans tel ou tel domaine de notre vie. Moi, ça m'arrive. Il y a tel défi que je rencontre, tel besoin que nous avons, et je sais que la parole de Dieu est la vérité. Et je sais que si je médite la parole de Dieu, la foi pour ce domaine-là va venir en moi. Donc, par la foi, dans la puissance de la parole, je parle la parole. Et je médite la parole sur tel sujet, jusqu'à ce que ça fasse clongue. D'accord ? La ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas, c'est à cause d'elle, c'est grâce à elle, devrait-on dire, que les anciens ont reçu un témoignage favorable. Par la foi, et étymologiquement c'est aussi dans la foi, à travers la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, ou dans d'autres versions, étymologiquement c'est les âges, les ères, les temps. ont été formés par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir des choses visibles. C'est par la foi, c'est dans la foi, à travers la foi, que Abel a offert à Dieu un sacrifice plus grand que celui de Caïn. C'est grâce à elle qu'il a été déclaré juste. Les personnages de l'Ancien Testament n'ont pas simplement, prenons l'exemple d'Abel, d'après ce passage, c'est très intéressant, parce que ça ne ressort pas de la Genèse lorsque tu le lis. Il n'a pas simplement présenté une offrande qui a été agréée par Dieu, sous-entendu, oui, j'accepte ton offrande et je vais te bénir. Non, la Bible nous dit, il a carrément été déclaré juste. Par la foi. Ce n'était pas l'offrande, c'était la foi qui était à l'intérieur et l'action qui allait avec. Ensuite, il nous est dit, car Dieu approuvait ses offrandes, et c'est par elle, la foi, qu'il parle encore, bien qu'étant mort. C'est à cause de la foi, c'est dans la foi, à travers la foi, que Hénoch a été enlevé pour échapper à la mort, et on ne l'a plus retrouvé parce que Dieu l'avait enlevé. Avant d'être enlevé, il avait en effet reçu le témoignage, quoi, qu'il était agréable à Dieu. Il avait reçu ce témoignage en lui. Je suis agréable à Dieu. Comment est-ce que tu peux être agréable à Dieu? Parce que tu sais que tu es juste. Si tu as commis des fautes, si tu as désobéi, si ton attention est sur le fait que tu as manqué le coche et que tu es séparé de Dieu, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Tu es agréable à Dieu parce que quelque chose s'est passé qui t'a rendu juste. Or, sans la foi, nous est-il dit, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche croie que Dieu est. Pas existe. Dans le sens, oui, je crois qu'il existe. Non, il faut que tu crois que Dieu est. C'est la troisième personne du verbe être en grec. Et qu'il récompense ceux qui le cherchent. C'est par la foi, dans la foi, que Noé, averti des événements que l'on ne voyait pas encore et rempli d'une crainte respectueuse, a construit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il a condamné le monde et est devenu héritier de quoi ? De la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham a obéi, on est avant l'épisode d'Isaac, lorsque Dieu l'a appelé et qu'il est parti pour le pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il est parti sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il est venu s'installer dans le pays promis comme dans un pays étranger. Il habitait sous des tentes, etc., etc. Et ensuite, il nous dit, verset 10, « Car il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. » Là, il y a une clé. C'est que Abraham, tout comme Noé, tout comme Hénoch, vraisemblablement, tout comme d'autres personnages de l'Ancien Testament, a vu le futur. Il a vu, Dieu lui a montré les choses qui allaient se passer. Et il nous a dit un petit peu plus loin d'ailleurs, ils ont vu, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir reçu les biens promis. Ben non, parce que le salut en Christ, c'était des milliers d'années plus tard. Et il est dit qu'il ne devait pas parvenir sans nous à la perfection. C'est aussi par la foi, verset 11, que Sarah elle-même a été rendue capable d'avoir une descendance. Malgré son âge avancé, elle a donné naissance à un enfant parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est intéressant parce que quand on lit la Genèse, la seule chose que l'on voit à propos de Sarah, c'est qu'elle a ri. Mais là, l'Épître aux Hébreux nous dit non. À un moment donné, elle a cru. Et elle a agi. Ah bon ? Ben oui, c'est pas une cigogne qui a livré l'enfant sur le toit de la maison. Et elle avait 90 ans. Et son mari en avait 100. Et elle a agi par la foi. Et ensuite, malgré son âge avancé, donc, elle a donné naissance à cet enfant. C'est pourquoi, verset 12, d'un seul homme pourtant déjà marqué par la mort, est née une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareille au sable qui est au bord de la mer et qu'on ne peut compter. Sauf qu'il ne faut pas oublier que là, quand il écrit au chapitre 11 aux Hébreux, il a déjà fait toute sa démonstration sur le fait que la descendance, c'est Christ. Et c'est ceux qui croiraient. Ce n'est pas que des Juifs dont il s'agit ici. Vous relirez l'Épître aux Hébreux, mais vous verrez que quand il s'agit de la descendance d'Abraham, celle qu'il a permise par la foi, c'était pas juste. Je ne sais pas si Abraham avait conscience. Je pense que ça lui a été montré des conséquences, pas seulement du fait qu'il allait avoir un enfant physiquement, mais de sa foi. J'en parlerai un petit peu plus après. Ensuite, au verset 17, il nous est dit, c'est par la foi qu'Abraham a offert Isaac lorsqu'il a été mis à l'épreuve. Oui, il a offert son fils unique en sacrifice, bien qu'il ait reçu les promesses. Et que Dieu lui ait dit, c'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. Il pensait que Dieu était capable même de le ressusciter des morts. C'est pourquoi il a retrouvé son fils par une sorte de résurrection. Dans d'autres versions, c'est par une préfiguration. Ça va ? J'essaie de poser des fondements, là. D'ailleurs, on va quelque part. Hein. J'essaie de poser des fondements. Chapitre 6 de Hébreux, verset 13, il nous est dit, « Lorsque Dieu a fait la promesse à Abraham, on parle de quoi ? On parle de la promesse qu'il lui a faite, je le jure par moi-même, oracle de l'Éternel, après qu'Abraham ait accepté d'offrir son fils en sacrifice en obéissant à Dieu. » C'est cette promesse-là dont il s'agit. D'accord ? Après l'acte de foi, après la mise à l'épreuve qui s'est terminée par un succès. C'est à ce moment-là que Dieu a dit, parce qu'avant il lui avait fait une promesse, cette fois-ci il lui fait un serment, il jure par lui-même. Il nous dit, lorsque Dieu a fait la promesse à Abraham, comme il ne pouvait pas prêter serment par plus grand que lui, il a juré par lui-même en disant certainement, je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance. C'est ainsi qu'après une attente patiente, on est après les œuvres de la foi. Une attente patiente. Tu dis, bon, ben, j'ai tout compris, donc je vais croire, je vais parler, je vais agir, et je vais voir. Physiquement. Parce que par la foi, on le voit déjà. Non, il est dit ici que parfois, c'est après une attente patiente que les choses se manifestent. Abraham a obtenu ce qui lui avait été promis. Or, les hommes jurent par plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à toute contestation. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer plus clairement encore à qui est Abraham, non, vous êtes avec moi dans la Bible, aux héritiers de la promesse, c'est qui ? C'est nous ? Ce qui s'est passé dans Genèse, chapitre, qu'est-ce que je vous ai dit, 22 tout à l'heure, nous concerne. Ce qui s'est passé dans Genèse, ce n'était pas juste une histoire entre Dieu, Abraham et son fils, et le peuple juif. Ce qui s'est passé dans Genèse a des conséquences des milliers d'années plus tard, et ça en aura jusqu'à la fin des temps, parce que ça concerne les héritiers de la promesse. Quand Dieu a fait son serment à Abraham, ce n'était pas uniquement à Abraham, c'est qu'il savait qu'un jour ce serment allait nous concerner, puisque c'est de nous dont il s'agit ici. Voulant montrer encore plus clairement aux héritiers de la promesse le caractère irrévocable de sa décision, est intervenu par un serment. On a la raison pour laquelle Dieu a promis deux fois à Abraham cette descendance. Une fois par une promesse, ça c'était avant la mise à l'épreuve, mais après la mise à l'épreuve, c'est un serment, pour montrer que ça a un caractère irrévocable. Ainsi, par deux actes irrévocables dans lesquels il est impossible que Dieu mente, la promesse et le serment, nous sommes puissamment encouragés, nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une encre solide et sûre de l'âme, elle pénètre derrière le voile, où là où Jésus a établi grand prêtre pour toujours, à la manière de Melchisédek, est entré pour nous en précurseur. Ok ? Donc, on voit qu'à travers l'Ancien, à travers le Nouveau Testament, il n'est pas simplement question de croire, d'avoir la foi, il n'est pas simplement question de parler, même si c'est déjà un acte, mais il s'agit ensuite de se mettre en mouvement, d'agir sur la base de ce que nous croyons, sur la base de ce que nous entendons de Dieu, pour que cette foi soit menée à la perfection, manifestée de façon totale, accomplie, remplie. D'accord ? On voit également que Abraham, il y a eu un avant et un après la mise à l'épreuve, clairement. Et on voit qu'avant, c'était la promesse, après, c'était le serment. On voit également Josué chapitre 2. Vous vous souvenez que dans Jacques, en ce qui concerne les œuvres de la foi, il était question de Rahab tout à l'heure. Josué chapitre 2. On va revoir ce passage. Et pendant que vous cherchez Josué chapitre 2, je vais vous lire... Dans Hébreux 11, il est question de Rahab également, dans les héros de la foi. Au verset 31, « C'est par la foi que Rahab, la prostituée, n'est pas morte avec les non-croyants, parce qu'elle avait accueilli les espions avec bienveillance. » Par la foi. ça vaut le coup peut-être, sachant qu'en plus, non seulement Hébreux, mais Jacques l'apprennent en exemple, ça vaut le coup de relire l'histoire pour savoir ce qui s'est passé. Josué chapitre 2, verset 1. « Josué, fils de Noun, fit partir secrètement de Sittim deux espions en leur disant « Allez explorer le pays, en particulier Jéricho. » Ils partirent et arrivèrent dans la maison d'une prostituée du nom de Rahab et ils y couchèrent. » J'aime la manière dont les choses semblent se passer de manière tout à fait aléatoire. Ces deux espions, ah, la première maison qui leur tombe sous la main, c'est la maison close de Jéricho. Mais passons. On dit au roi de Jéricho, des Israélites sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Alors le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison. En effet, c'est pour explorer le pays qu'ils sont venus, c'est des espions. Mais la femme prit les deux hommes et les cacha. Puis elle dit, il est vrai que les hommes sont arrivés chez moi, je ne savais pas d'où ils étaient. Et au moment où on allait fermer la porte, à la tombée de la nuit, ils sont sortis. J'ignore où ils sont allés, mais vite, dépêchez-vous de les poursuivre, vous allez les rattraper. Elle avait fait monter les espions sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle y avait arrangées. Ces hommes les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain et on ferma la porte après leur départ. Avant que les espions se couchent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit « Là, on a quelque chose d'important. Pourquoi est-ce qu'elle a fait ça ?» Bon, il y a deux clients qui rentrent. Espions, certes, mais peu importe. Elle va risquer sa vie pour eux. Elle va les cacher sur le toit et désobéir au roi de Jéricho. Pour quelle raison ? Ben, on a la clé ici, ils nous le disent. Elle leur dit, je le sais, l'Éternel vous a donné ce pays. L'Éternel ? Et comment elle le connaît ? Elle n'est pas juive, cette femme. Elle a entendu parler, et elle a cru que l'Éternel, notre Dieu, leur avait donné le pays. La terreur que vous inspirez s'est emparée de nous et tous les habitants du pays tremblent devant vous. En effet, nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a asséché devant vous l'eau de la mer des roseaux et comment vous avez traité les rois des Amoréens de l'autre côté du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez exterminés. En l'apprenant, nous avons perdu courage et notre esprit est abattu devant vous, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre. Je serais fort surpris qu'à Jéricho, à l'époque, on adorait l'Éternel des Juifs. Mais elle a eu une révélation, sur la base de laquelle elle a parlé et sur la base de laquelle elle a agi. Je sais quelle est la volonté de Dieu. Je sais ce que Dieu a prévu. Elle aurait pu s'échapper. Elle aurait pu tenter le coup en faisant confiance au roi de Jéricho et trahir les espions ou les livrer. Non, elle croyait. Elle avait donc la foi. C'est par la foi, par la foi. Et maintenant, je vous en prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour ma famille la même bonté que moi pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères et sœurs et tous les leurs, et que vous nous sauverez de la mort. Et on sait ensuite que c'est ce qui lui a été promis. Et c'est ce qui s'est passé. Au chapitre 6, verset 15, il nous est dit, le septième jour, ils se levèrent, donc ce sont les Hébreux qui sont autour de Jéricho. Ils se levèrent de bon matin dès l'aurore et ils firent de la même manière sept fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent sept fois le tour de la ville, la septième fois. Comme les prêtres sonnaient de la trompette, Josué dit au peuple, poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. La ville sera vouée à l'Éternel et tout ce qu'elle s'y trouve, mais on laissera la vie à Rahab la prostituée et à tous ceux qui seront avec elle dans sa maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et quand vous regardez au verset 25, il nous a dit « Josué laissa la vie à Rahab la prostituée, à sa famille et à tous les siens. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à aujourd'hui parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. » Donc, cette femme que Jacques prend en exemple, en nous disant « la foi seule ne suffit pas », vous savez quoi ? Si Rahab était restée entre ces quatre murs en croisant les doigts et en disant « je crois que Dieu leur a donné le pays et qu'il va m'épargner », par un tour de magie, quand les murs vont s'effondrer ou quand les armées vont rentrer, nous allons être épargnés parce que je crois. Eh bien, elle serait morte avec tous les autres. Mais parce qu'elle a agi, elle a pris un risque, comme Abraham a pris un risque. Parce qu'elle a agi, il nous a dit plusieurs choses. D'abord, on voit que les anciens de l'Ancien Testament, les anciens, quand ils ont mis leur foi en action, ils ont été déclarés justes par Dieu. Deuxièmement, elle a été sauvée. Manifestement. Troisièmement, J'ai découvert ça, j'ai trouvé ça génial. Matthieu chapitre 1. Matthieu chapitre 1. Vous vous souvenez, par rapport à Abraham, je vous ai dit, et on l'a vu, que ce qui s'est passé sur le mont Moria ce jour-là ne concernait pas uniquement Abraham, Isaac et la descendance physique. Ce qui s'est passé sur le mont Moria ce jour-là, ça a un impact sur la race humaine tout entière, celle qui accepte de croire. Nous sommes la descendance d'Abraham. Nous faisons partie de la descendance d'Abraham. Parce que nous avons la foi de notre père Abraham le croyant, c'est ce qu'il nous est dit, n'est-ce pas ? Donc ça a eu des conséquences, je dirais, sur le plan de Dieu. Pas uniquement dans la vie d'Abraham, mais sur le plan de Dieu. Matthieu chapitre 1, voici la généalogie de Jésus-Christ. Verset 2, Abraham eut pour fils Isaac. Jusqu'ici, ça va. Isaac eut Jacob. Ouais, on se souvient. Jacob eut Judas et ses frères. C'est bon. Judas a... Là, il faut être un peu plus érudit, ça commence à creuser un peu. Judas eut Pérets et Zérar de Tamar. Pérets eut Hetsrom. Hetsrom eut Aram. Aram, Aminadab. Aminadab, Narson. Narson eut Salmon. Salmon, verset 5, eut Boaz. De qui ? Lisez dans vos Bibles. De Rahab. Vous connaissez Boaz, le mari de Ruth, n'est-ce pas, dans les Écritures ? Sa mère s'appelait Rahab, la prostituée de Jéricho. Mais ça ne s'arrête pas là. Boaz eut Obed. Et Obed, c'était l'arrière-grand-père du roi David. Et quand vous continuez dans les générations, vous tombez sur Jésus-Christ à un moment donné. Vous vous rendez compte ? Vous vous rendez compte que les conséquences de l'acte de foi de cette femme ont eu ces répercussions-là ? Et pour Abraham, même chose. Relisez Hébreux, nous sommes concernés. Donc, c'est pour ça que je vous dis, je suis certain, enfin que je suis certain, je ne sais plus quel est le passage des Écritures qui dit que les prophètes de l'Ancien Testament ont cherché à savoir les temps qui concernaient la venue de Jésus-Christ. Peut-être que tu le connais. C'est dans Pierre ? Et ils ont vu le salut, ils ont vu la croix, ils ont vu la résurrection de Christ, ils ont vu la nouvelle naissance. Et je crois que ces patriarches de l'Ancien Testament, les héros de la foi tels qu'on les voit, vous savez pourquoi ils ont été justifiés ? Parce qu'ils ont agi par la foi ? Non, pas simplement. Parce qu'ils ont vu ces choses à l'avance et qu'ils ont cru. Alors, ils n'étaient pas physiquement présents, ils n'étaient plus physiquement présents, mais ils ont cru d'avance à ce que Dieu leur a montré et ils ont été justifiés. Jacques chapitre 1, je vous donne deux versets pour terminer. Jacques chapitre 1. Deux versets qui m'encouragent. Il nous est dit, verset 1, « Frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. » Marc Brasi le dit de la sorte. Il dit, vous savez, en ce qui concerne un haltérophile ou quelqu'un qui fait de la muscu, hein Pierre, en ce qui est quelqu'un qui fait de la muscu, tu vois. Il dit, c'est pas les poids, parce qu'il s'est remis au sport, hein, c'est pour ça que je dis ça. C'est pas une invitation, c'est un encouragement. Les poids n'ont aucun pouvoir en eux-mêmes. Les haltères n'ont aucun pouvoir. Qu'est-ce que c'est ? C'est la résistance que tu vas leur opposer. Tu résistes et tu repousses. Tu résistes et tu repousses. De la sorte, tu es en train de travailler. Et il nous est dit ici, la mise à l'épreuve. C'est quoi la mise à l'épreuve ? Ben, la mise à l'épreuve, c'est ce qui peut croiser notre chemin pendant qu'on est sur Terre. C'est la volonté que Dieu peut avoir à notre égard lorsqu'il nous demande de faire quelque chose par la foi. La mise à l'épreuve de notre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, toujours cette notion de perfection. La persévérance doit quoi ? Accomplir sa tâche parfaitement. Vous vous souvenez, téléios, c'est-à-dire jusqu'au but qui a été fixé. Afin que vous soyez quoi ? Parfaitement qualifiés. Sans défaut. Qu'il ne vous manque rien. Alors dans notre esprit, c'est le cas. Mais on a une vie à mener sur terre. On a une vie à mener sur terre. Ensuite, dans 1 Pierre, donc Jacques nous dit ici, et il développera au chapitre suivant, les actes de la foi, les œuvres de la foi. Quand il y a quelque chose qui arrive, un défi, une tuile, ou peut-être un besoin, chez nous, chez les autres, un projet. Ça, ce sont des choses. Et Dieu nous dit, allez, maintenant que tu sais quelle est la promesse, maintenant que tu crois en la parole, maintenant que tu parles ces choses, maintenant tu vas agir. Maintenant tu vas y aller. Tu vas faire le premier pas. Cela, c'est une mise à l'épreuve de notre foi. Tu dis, mais Dieu connaît mon cœur. Oui, mais manifestement, mes amis, je lis la Bible comme vous, ça ne suffit pas. Il faut, pour que ça se manifeste dans cette dimension, il faut qu'il y ait notre foi qui soit éprouvée, qui soit rendue parfaite. Ou perfectionnée, en tout cas, jusqu'à ce qu'elle soit rendue parfaite. Dans 1 Pierre, il nous a dit au chapitre 1, verset 3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ. » Donc ça vous concerne, vous et moi, si nous sommes nés de nouveau, « pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu, au moyen de la foi, pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. » Bon, ça nous concerne. Ce salut a été, et il est prêt à être révélé. Vous savez, je crois que c'est Kenneth Hagin qui a dit que plus les temps vont passer, plus le domaine naturel et le monde spirituel vont s'interconnecter. Plus le spirituel va faire irruption dans le domaine naturel. Et le salut va se révéler de plus en plus. C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristé par diverses épreuves. Et Pierre nous dit la même chose que Jacques ici. Il dit ainsi la valeur éprouvée de votre foi. Vous savez, je discute avec des gens à propos de l'Église, des gens qui font partie de l'Église et qui disent « Mais tu sais, moi ce que j'aime dans cette Église, c'est qu'on ne se satisfera pas de faux-semblants. On aborde les problèmes tels qu'ils sont, on est mis au défi, on entend la vérité, et cette vérité, elle a pour but de nous faire changer. C'est-à-dire que si tu suis le pas de l'Église de la Bonne Nouvelle, le rythme de l'Église de la Bonne Nouvelle, le mouvement de l'Église de la Bonne Nouvelle, tu changeras. Et tu te rendras compte, en te retournant, que 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, même des fois 1 an plus tard, tu n'es plus la même personne. Et tu as changé en bien, et tu es plus fort dans les choses de Dieu, et tu comprends mieux la parole de Dieu, et ta vie, elle a changé. Et c'est pour cela que l'on parle de la foi. C'est que la foi ne doit pas être un espèce de concept fumeux. Ça ne doit pas être simplement du style « Oh, ben, je crois, ah, il faut parler, bon, ben, alors je parle, et puis ensuite ça ne marche pas, et on dit, ah, ben, tu vois, on nous a raconté n'importe quoi. » Non. D'après les Écritures, il y a des principes que Dieu a mis en place. Et en ce qui concerne la foi, ben, on a vu qu'elle devait être nourrie, on a vu qu'elle devait donner lieu à des mots, à parler, mais elle doit être également éprouvée. Et cette foi éprouvée, beaucoup plus précieuse que l'or. Pasteur Marie-Hélène a dit dernièrement, et c'était une parole prophétique, moi, ça m'a impacté. Dans les temps qui viennent, la foi sera beaucoup plus précieuse que l'or. Vous savez pourquoi ? Ben, moi, tel que je l'ai compris. Parce que l'or, l'argent, la monnaie, les avoirs, le patrimoine, les bitcoins, appelez ça comme vous voulez. Aujourd'hui, ça vaut, demain, ça ne vaut plus. Vous savez, quand il y a eu, dans la crise de 1929 aux États-Unis ou même plus tard en Allemagne et autres, il y a des témoignages, les gens disaient qu'il fallait amener des brouettes de billets de banque à la boulangerie pour pouvoir acheter une baguette de pain. La monnaie ne valait plus rien. Bien, qu'est-ce que tu vas faire quand on va traverser peut-être des temps où ça va commencer à devenir plus difficile ? Ta foi, c'est ça qui va te permettre de vivre, si ta foi est éprouvée. Ici, il ne nous est pas dit que la foi est plus précieuse que l'or, c'est la foi qui est éprouvée qui est plus précieuse que l'or. Et qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. Les prophètes, les prophètes qui ont parlé de la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils cherchaient à découvrir l'époque et les circonstances indiquées par l'Esprit de Christ qui était en eux lorsqu'il attestait d'avance les souffrances du Messie et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur a été révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient au service de ce message. C'est intéressant. Les prophéties de l'Ancien Testament sont pour nous. Pour nous. Les hommes qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit, envoyé du ciel, vous ont maintenant annoncé ce message, dans lequel les anges eux-mêmes désirent plonger leur regard. L'épreuve, mes amis. L'épreuve, en ce qui concerne l'or, par exemple, c'est quand tu le mets au feu. Pour qu'il soit pur, il faut qu'il soit éprouvé. Il faut qu'on enlève au fur et à mesure tout ce qui n'est pas, tout ce qui est impureté à l'intérieur de l'or. Pasteur Marie-Hélène parle souvent également de la fabrication des avions de ligne. Les avions de ligne, avant d'être mis sur le marché, ils tordent leurs ailes pour savoir jusqu'à quel point ça résiste avant de casser. C'est ça l'épreuve dont il s'agit. Mais le résultat, c'est que notre foi est rendue parfaite. Amen. Donc, la foi agit. C'est clair. La foi agit. Parler, déjà, méditer les Écritures, c'est déjà un signe de foi, parce que ça veut dire que tu t'attends à trouver quelque chose, tu t'attends à recevoir de Dieu, tu t'attends à ce que la parole dit à propos d'elle-même, c'est-à-dire qu'elle est une semence de foi, qu'elle encapsule la foi, est vrai. Ensuite, une fois que tu le crois, tu le parles. Quand tu le médites, pendant le processus, tu le parles également. Jusqu'à ce que tu sois convaincu de ces choses-là. Mais à un moment donné, il va y avoir l'épreuve du feu. Il va y avoir les actes. Vous savez, les entraînements militaires, c'est bien gentil, mais tant qu'il n'y a pas l'épreuve du feu, ou même pour les pompiers, qui sont des militaires, c'est la même chose. C'est ce qu'on appelle l'épreuve du feu. Tu t'entraînes, tu revois la théorie, tu revois la pratique, mais à un moment donné, il faut y aller. Et là, quand tu passes le test avec succès, ben, écoutez, c'est la gloire de Dieu qui se manifeste. Mais non seulement c'est la gloire de Dieu qui se manifeste, mais ce que je trouve très intéressant dans les exemples de l'Ancien Testament, c'est que ça va bien au-delà de nous. Bien au-delà de nous. Donc, ben écoutez, il faut se relever les manches et il faut y aller, parce qu'on a un appel de Dieu sur nous qui ne se limite pas à notre propre vie. On en a conscience de cela en lisant les Écritures. Cette histoire de foi, cette histoire de parole, de parler les choses qui n'existent pas comme si elles étaient, et cette action qui en découle, ça va au-delà de nous-mêmes. On peut tous lire et être encouragé aujourd'hui par des gens passés, que ce soit de la Bible ou en dehors, qui ont mis leur foi en action, et ça nous encourage. Et on voit le résultat, et ça a fonctionné. Pasteur Marie-Hélène parlait de Billy Graham, par exemple, tout à l'heure. Moi, je vais acheter sa biographie. C'est impossible qu'il y ait des centaines de milliers, des dizaines de millions peut-être, de gens qui aient été impactés par cette... Moi, c'est quelqu'un que je ne connais pas très bien. Mais c'est impossible que ces gens-là aient été impactés pour rien. Il doit y avoir quelque chose dans le témoignage de cet homme, dans la vie de cet homme. Donc je vais acheter sa biographie et je vais la lire. Mais ça va au-delà de lui-même. Et ça va au-delà de nous-mêmes, vous comprenez? Donc la foi agit. Quoi que ce soit que Dieu mette sur votre chemin ou qu'il vous demande de faire, il va y avoir une épreuve du feu à un moment donné de toute façon. Il va falloir agir. Que ce soit dans le domaine des finances, que ce soit dans le domaine de la santé, que ce soit dans le domaine des relations, que ce soit dans le domaine de la carrière, que ce soit dans le domaine de changer, nous devons changer. Et si nous devons changer, ça veut dire qu'à un moment donné, bon, on voit quelle est notre identité en Christ, oui, c'est vrai, on voit que Dieu nous aime, absolument, on parle ce que l'on croit à notre propre sujet, oui et amen, mais à un moment donné, il faut agir. Ça peut vouloir dire qu'il faut rentrer dans le magasin dans lequel tu n'as pas l'habitude de rentrer et changer tes vêtements. Ça peut vouloir dire qu'il faut aller vers les personnes que tu ne fréquentais pas jusqu'ici parce que Dieu te dit, en direct ou par l'intermédiaire de quelqu'un qui est spirituel, « Écoute, tu devrais fréquenter telle personne parce que ça va agrandir ton univers ou parce que c'est quelqu'un qui va t'inspirer. » Ou bien il va falloir que tu acceptes de te mordre les lèvres la prochaine fois que tu estimes qu'une injustice t'a été commise. C'est ça aussi, changer parfois. Etc., etc., etc. Les œuvres de la foi. Dans Éphésiens, il nous est dit que, dans le même passage, Paul nous dit, ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais parce que nous sommes sauvés, il y a des œuvres de la foi que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. De bonnes œuvres. Afin que nous les pratiquions. Et le résultat va au-delà de nous-mêmes. Amen. Ok, ok. Écoutez, c'est tout. C'est tout. Non. Gloire à Dieu pour sa parole. Et...